Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le 10e rendez-vous de Béliveau Rencontre. Écoutez, au début, on ne pensait pas que ça allait autant avoir autant de Béliveau Rencontre, autant de rendez-vous. Et on est très, très heureux avec toute l'équipe de Béliveau Éditeur d'être là 2 mercredis par mois. Puis vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter. Aujourd'hui, je reçois Alain Sanson pour son livre « Devenez auteur ». Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Ça va bien?
Oh que oui!
Passez une belle journée.
Le printemps est arrivé, on est sorti sur le perron, on s'est assis au soleil et c'était bon.
Merveilleux. Juste avant de commencer, mon cher Alain, je voudrais juste mentionner qu'on est sur différentes plateformes. On est sur Facebook, on est sur plusieurs groupes. Il y a déjà du monde qui nous écoute, on voit des messages. Donc, on est sur la page Facebook de Béliveau. On est aussi sur la page des lecteurs d'Antoine Labelle, des mordus de livres, de la page Être heureux, de Pensée plus Vision plus Action, sur la chaîne YouTube de Béliveau, sur la page LinkedIn personnel à moi et sur ma page Facebook aussi. Puis demain matin, vous allez retrouver cette rencontre avec Alain sur différentes plateformes en balado, c'est-à-dire Google Podcasts, Amazon, iHeart Radio, Spotify, Apple Music et Apple Podcasts, excusez-moi, et Balado Québec. Donc, vous allez avoir plein de sources pour pouvoir écouter cette belle entrevue qu'on a ce soir avec Alain Sanson. Alain, pour commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter aux internautes qui tu es, puis en quelques mots, s'il te plaît.
Alors, ça me fait plaisir. Dans un premier temps, ce n'était pas prévu que je devienne auteur, ce n'était pas prévu que je devienne conférencier. Moi, au début des années 90, j'étais directeur général d'une entreprise en immobilier du centre du Québec qui appartenait à mon beau-père. Donc, j'étais directeur général d'une entreprise familiale. Sauf qu'en 1991, mon beau-père fait un ACV. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un AVC, mais à l'époque, c'était un ACV. Et il décède. Et là, on réalise que même si en tant qu'entrepreneur, c'est quelqu'un qui avait de la drive, qui allait de l'avant, en tant que mourant, il était plutôt incompétent. C'était un mourant qui n'avait pas eu le tour. Il n'y avait aucune assurance vie, on l'a découvert. Il n'y avait aucune planification successorale. Bref, on s'est retrouvé avec une dette fiscale d'1,5 million à peu près. Puis en 91, 1,5 million, c'était beaucoup plus qu'aujourd'hui. Là, à cette heure, c'est un bungalow. Sauf qu'à l'époque, c'était de l'argent. Et il s'est passé deux choses. Un, la banque a cessé d'aimer l'entreprise. Normalement, ils ont peur. Et deux, je ne dirais pas la chicane. Disons, des désaccords sont nés dans la famille. Par exemple, j'ai une belle-sœur qui est venue me voir, qui m'a dit, « Toi, ta job, j'avoue, t'es dehors. » Alors, je me suis tourné vers mon épouse. J'ai dit, « Qu'est-ce qu'on répond à ça? » Elle a dit, « Ça serait bon que tu t'en ailles. » En fait, 91 n'a pas été une bonne année pour moi.
OK.
J'avais les cheveux foncés avant 91. Mais je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais du reste de ma vie? J'ai perdu quand même une entreprise, un job. J'ai un couple qui est fragile, qui s'en va en descendant. Alors, j'ai dit, tiens, je vais retourner aux études. Alors, je suis allé faire un MBA, 92-93. Puis en sortant, je me suis dit, OK, ils m'ont montré plein de choses, mais ils ne m'ont pas montré pourquoi j'ai vécu tout ça. Alors, avant de me trouver un emploi, je vais étudier l'entreprise familiale parce qu'au MBA, ils ne te montrent pas ça.
Ouais.
Alors, je me suis mis à lire plein de livres là-dessus et j'ai découvert les livres du gourou américain de l'entreprise familiale qui s'appelle Léon, qui s'appelait, parce qu'il est décédé depuis, Léon Danko. Alors, un de ses livres me plaisait énormément, s'appelait « Beyond Survival ». Alors, j'étais jeune, 32, 33, j'ai osé écrire à M. Dancault en lui disant « Je veux traduire votre livre pour le Québec. » Quand tu écris un auteur américain, tu ne t'attends pas à ce qu'il te réponde. Mais deux semaines plus tard, ça sonne chez moi, je réponds au téléphone, c'est lui. Puis il me dit « Ça m'intéresse, viens me voir. » Alors, je me réserve un billet d'avion, je m'en vais à Cleveland, c'est là qu'a fondé le Center for Family Business, et son chauffeur vient me chercher à l'aéroport, parce que oui, aux États-Unis, les auteurs ont des chauffeurs. C'est spécial. Pendant deux jours, je jase avec M. Dancault, et au bout de deux jours, on est dans son jardin. Il est en train de réfléchir. On marche. Et là, il me dit, OK, ma décision est prise. C'est non. Tu n'auras pas les droits sur mon livre. Ça, c'est plat. De notre côté, il me dit, un livre, tu en as un en toi. Retourne chez vous et écris-le. Alors, je retourne au centre, pas au centre du Québec, je retourne à Dorval, je prends mon char, je m'en vais au centre du Québec, je descends dans la cave et en un mois et demi, j'écris mon premier livre qui s'est appelé « Famille en affaires pour en finir avec les chicanes ». Je ne sais pas, j'étais comme inspiré.
Oui.
Le livre, je l'ai soumis à un éditeur, il est acceptant dans deux semaines et ben, au bout de quelques mois, j'étais auteur. Ça m'a encouragé, j'ai eu des demandes de conférences, ça m'a donné un peu de revenus. J'ai écrit d'autres livres, puis aujourd'hui, ben, je suis rendu à 130 livres. Je suis publié en espagnol, en italien, en tchèque, en anglais, en français de France, parce qu'en France, ils nous traduisent.
Nous, ben, on... certaines adaptations de certains mots.
C'est ça. Si on marque avant midi, c'est dans la matinée. Si on marque obtenir une promotion en échange de faveurs sexuelles, il marque obtenir une promotion canapé. Alors, faut s'adapter et c'est agréable de se relire dans une autre version. Bref, depuis ce temps-là, ben, j'ai peut-être donné 3-4 000 conférences un peu partout dans le monde. J'ai écrit plusieurs livres, je suis un petit peu partout, j'ai des livres audio. 50 quelques livres audio. Bref, la vie a été bonne pour moi parce que j'ai subi, franchement, c'était pas drôle de perdre mon emploi, de voir mon couple s'effriter. C'était vraiment pas agréable. Mais d'un autre côté, j'ai découvert la résilience, j'ai découvert le plaisir de rebondir, tellement même qu'après mon MBA, plusieurs années après, je me suis inscrit à l'Université de Pennsylvanie en psychologie positive. J'ai gradué et depuis ce temps-là, c'est à ce moment-là que je suis devenu vraiment bon. Quand j'ai pu allier la logique de tout ce qui est MBA avec l'intuition et les sentiments de ce qui est le plaisir d'être soi-même, d'être authentique. Alors, oui. C'est mon histoire.
On a une question, c'est Lolita qui demande, Lolita Leblanc, 130 livres. Pour nous donner une idée, vos livres, combien de pages? Et la plupart vous demandent combien de temps à les écrire?
Alors, hey, c'est une très, très bonne question, ça, Lolita. Alors, je vais vous répondre. La majorité de mes livres ont à peu près 35 000 mots. Je dirais 35 000. Règle générale, ça me prend à peu près un mois à écrire. Mais ça peut me prendre deux ans à planifier mon plan, etc. En 2006, j'ai eu un best-seller au Québec sur les différences générationnelles au travail. Et je ne voulais pas écrire un livre qui ressemblerait à tous les autres. J'ai fait des recherches pendant peut-être un an, deux ans. C'est facile de faire des recherches quand on est conférencier. Le soir, on est dans une chambre d'hôtel. Tout ce qu'on a à faire, c'est des recherches. Et un jour, j'ai eu le flash. Je vais appeler ça « Les boomers finiront bien par crever ». Et ça a été un best-seller. Mais si je l'avais écrit un an auparavant, ça aurait été un livre comme les autres. Faut attendre. Mais une fois qu'on a découvert notre angle, Il nous reste à suivre la technique dont on parlera tantôt pour comment écrire un livre en se basant sur devenir auteur. Mais c'est tout le temps une étincelle qui fait qu'on va écrire un livre.
Oui, il y a Mireille Bernier qui demande 35 000 mots, ça donne environ combien de pages?
Ça dépend du format du livre. 35 000 mots, normalement, c'est 150-160 pages.
OK.
Mais attendez, là, 150-160 pages une fois édité. Fiez-vous pas là-dessus. Là. Si vous écrivez en Word, là, c'est peut-être 80 pages.
Oui, c'est souvent c'est le double quand c'est édité.
Exactement. Fait que vaut mieux faire en sorte que votre Word ou votre Pages ou peu importe vous mentionne le nombre de mots en bas. De toute façon, c'est essentiel pour faire votre plan de livre. Parce qu'un plan de livre, vous ne voulez pas communiquer au lecteur le fait que tel thème est moins important qu'un autre. Alors, il faut essayer de balancer d'un chapitre à l'autre le nombre de mots pour ne pas dire, OK, ça, ce n'est pas très important. Il a juste fait tant de mots. Celui-là, il doit être important. Il en a fait 4 fois plus. Il faut faire attention d'égaliser notre plan. Par exemple, oui.
Oui, allez-y.
Si par exemple 30 000 mots et que je prévois avoir une intro, une conclue de 1 000 mots chaque, il me reste 28 000 mots. Si c'est un 4 chapitres, ça va me faire 7 000 mots par chapitre. Je ne vais pas faire un 12 000 mots puis ensuite réduire parce que ça communique au lecteur le fait que ça, ce n'est pas important, ça, ce n'est pas important et je veux que le lecteur se sente constamment interpellé.
Merci pour cette réponse. Et là, on va parler du livre « Devenez auteur ». Et je tiens juste à préciser, c'est « auteur dans une relation d'affaires ». Donc, parce que c'est vraiment différent quand on écrit un peu des romans, parce que dans ce que vous écrivez, par exemple, dans le livre, c'est pour améliorer les ventes, trouver des nouveaux clients et tout ça. C'est vraiment destiné développement personnel et tout ça, je pense que je ne me trompe pas, mais il s'adapte aussi pour les romans à peu près.
En grande partie, c'est pour se vendre, mais c'est également pour raconter son histoire. Ça peut être une dame grand-mère peut simplement décider d'écrire son histoire pour le léguer, la léguer à ses enfants, puis faire un court tirage. À ce moment-là, elle va diviser sa vie en plusieurs étapes, va se faire un plan et va générer, puis c'est tellement facile, 30 000 mots. Si on écrit 500 mots par jour, c'est 2 mois, là. C'est, oui. C'est pas long.
Non. Puis vous dites dans le livre comme quoi que... je vais vous citer, ça va être plus simple, c'est... comme quoi que ce n'est pas une nouvelle méthode, c'est votre propre méthode que vous mettez, que vous expliquez en long, puis que vous expliquez très bien, que c'est une méthode parmi tant d'autres, mais que ça a pris quand même 25 ans à peu près à la peaufiner.
À développer, absolument, parce qu'au début, on écrit, puis d'autant plus qu'au début, on a le sentiment que le manuscrit doit être parfait. Alors, on l'écrit, on le relit, on le réécrit, on le réécrit. Et quand on pense qu'il est parfait, on l'envoie à l'éditeur. L'éditeur dit oui. Et ça nous revient plein de modifications à cause de la correction. Et à ce moment-là, c'est dur pour l'humilité. C'est dur parce qu'on se dit, coudonc, il m'avait dit que c'était bon. Puis on dirait que j'ai des fautes partout. Mais en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que le manuscrit qu'on livre, c'est un matériau brut. Et au fil des éditions, au fil du processus éditorial, les gens vont le peaufiner. C'est pas qu'ils nous scrapent ce qu'on a fait, c'est juste qu'ils rajoutent une couche de vernis. Puis cette couche de vernis-là, fait en sorte qu'à la relecture, on va être encore plus fier de ce qu'on a écrit et faire en sorte que notre livre va être plus compréhensible du public parce que quelquefois on utilise des expressions qui sont vraiment tirées de notre terroir et qui ne seraient pas nécessairement comprises ailleurs. Alors, c'est un travail d'équipe, écrire un livre. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va livrer le produit parfait. Il sera jamais parfait, mais il va être meilleur une fois le processus éditorial terminé.
Exactement. Puis comme vous dites, c'est un travail d'équipe. Puis c'est vraiment derrière le livre se cache beaucoup de métiers inconnus. Puis je quand même, j'en profite parce qu'on parle du livre, mais de saluer les correctrices, ceux qui font la mise en page, les imprimeurs. Il y a la conception graphique, les ceux qui font la couverture, les graphistes, l'éditeur aussi, on n'en parle pas beaucoup. Mais il faut quand même saluer toute cette chaîne, cet écosystème du livre qui fait qu'on puisse, vous et moi, publier un livre.
Absolument. En fait, on fournit le matériau de base. Ce matériau de base-là doit être raffiné, doit être amélioré. Faut pas se sentir amoindri du fait qu'on a beaucoup ajusté ce qu'on avait fait. Ça fait en sorte que le tir est meilleur et qu'on rejoint davantage notre public. En autant que, ah, puis là, je vais faire une mise en garde. Vous écrivez un livre. Par exemple, je coach actuellement une dame. Elle écrit un livre sur son accompagnement de sa mère. Sa mère est Alzheimer, est en train de perdre ses facultés et est en train de raconter cette histoire-là. Ce qu'il ne faut pas, c'est s'imaginer qu'on va écrire pour tout le monde. Qui est intéressé, ou plutôt qui sera intéressé par mon histoire? Et là, on se fait l'idée de notre lecteur idéal. OK, c'est une dame. Souvent, les aidants, c'est des dames. C'est une dame. Sa mère est en train de perdre ses moyens. Elle est dans la quarantaine. Elle peut prendre des congés de temps à autre de son emploi. Et on s'adresse à des gens qui correspondent à ce portrait-là. Autrement dit, on donne un nom à notre lecteur. On va l'appeler Janine. Puis tous les jours, quand on commence à écrire, on imagine Janine devant nous, qui a lu ce qu'on a écrit la veille, puis qui nous demande, OK, après, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce que tu as à me dire? De cette façon-là, on évite de parler à tout le monde. Parce que une de mes premières erreurs comme auteur, j'écrivais des livres d'affaires et j'avais tendance, un chapitre à parler aux employés, l'autre chapitre aux gestionnaires, l'autre chapitre aux grands dirigeants. Ce qui fait qu'au bout du compte, personne ne se reconnaissait là-dedans. Il faut que, quand ils feuillettent notre livre, peu importe où ils posent le regard, qu'ils aient le sentiment « Hey, il me parle ». Mais le sentiment « Hey, il me parle », ça ne sera jamais atteint si on parle à n'importe qui. Puis notre livre ne trouvera pas son public. Et ça n'aide pas l'éditeur non plus. Parce que si on est trop générique, la couverture va être générique, la couverture arrière va être très générique, et finalement, ça intéressera personne.
Et c'est comme on appelle dans le marketing, c'est faire son persona, c'est-à-dire la personne exactement à qui on s'adresse, connaître son public cible.
Exactement, c'est ça. Et faut se rappeler aussi qu'un livre, aussi bon soit-il, il va arriver que il va être lancé sur le marché au mauvais moment. Tu sais, je me souviens d'un livre que j'ai écrit sur la créativité. Puis pourtant, la créativité, c'est super intéressant. Le livre s'appelait Les Muses. Béliveau l'a sorti. Il est arrivé en librairie 3 jours avant la fermeture des commerces pour pandémie. Alors, on ne peut pas dire que c'est un bon timing. Tu sais, le livre arrive en librairie, toutes les libraires ferment, et comme au Québec, il y a beaucoup de production, il y a beaucoup d'arrivées. Quelquefois, les libraires retournent les invendus au bout de 6 mois. Ben, à la fin de la pandémie, mon livre ne s'était pas vendu. Pas parce qu'il n'était pas bon. Il est arrivé au mauvais. Il est arrivé au bon moment au niveau créativité, mais au mauvais moment au niveau sociétal. T'sais? Et il ne faut pas le prendre personnel. Des choses comme ça peut arriver.
Oui, puis c'est vraiment avec cette pandémie, c'est pas la faute de l'éditeur, c'est la faute que tous les commerces ont été fermés.
Exactement. C'est absolument. Ah non, surtout que l'éditeur, Diane, la correctrice, c'est Diane qui m'avait révisé ça, avait fait un superbe travail. C'était beau. Et aujourd'hui, c'est sûr que j'ai passé des mois à écrire ça, mais aujourd'hui, ce que je trouve triste, c'est que le public n'a pas pu voir ce livre-là à cause de ce qu'on connaît de la pandémie.
Il y a Lolita Leblanc qui demande, avec le genre de vos écrits, normalement, est hyper structuré, laissez-vous de la place pour des parties plus intuitives et spontanées. Donc, est-ce que vous laissez embarquer, est-ce que vous laissez place à une certaine, on va dire, décontenance, ça veut dire d'aller là où vous n'avez pas prévu d'aller dans votre écrit?
Alors, oui, ça m'arrive souvent. En fait, je sais, je dirais que écrire un livre, c'est donner une ride à notre lecteur. On le prend au point A, on veut l'emmener au point B, et il faut qu'il y ait du plaisir entre-temps. Alors, chaque chapitre, pour moi, c'est OK, je le prends là, je l'emmène là. Sauf que, pendant qu'on écrit, on se laisse aller fréquemment. Et tellement même que on se perd dans l'écriture et à la relecture, ça m'arrive, moi, à la relecture, je me dis, hein, j'ai écrit ça, c'est donc beau. Mes meilleures métaphores, mes meilleures figures de style, c'est quand j'ai pas décroché parce que je suis mon plan, mais quand je me suis laissé aller, puis que j'ai découvert une façon de présenter mon contenu d'une manière qui était absolument imprévue. Alors, c'est l'écriture, ça l'implique de se laisser glisser dans notre texte.
Oui, puis tantôt, tu en parlais dans à peu près les premières minutes, l'importance de la recherche. Tu disais qu'une fois après tes conférences, tu es seul dans la chambre d'hôtel, puis ce qui reste à faire, c'est des recherches. Et puis dans le livre, tu dis que c'est un mal nécessaire, de toujours d'aller faire des recherches pour toujours justement aller plus profond dans les connaissances et tout ça. Ta vision des recherches, c'est quoi exactement?
Ben, je suis en train d'écrire un livre au Québec, naturellement. Il faut accepter l'immigration à cause des courbes démographiques, etc. Je suis en train d'écrire un livre sur le leadership d'une entreprise multiculturelle. Puis, c'est pas nécessairement simple. C'est pas parce que tu engages des gens qui viennent de l'étranger que ton organisation est multiculturelle. Là. Ça peut être des gens qui vont être placés à part puis qui ne prendront jamais leur place. Alors, je viens de suivre un cours à l'Université du Colorado qui s'appelle le leadership inclusif. Ben, c'est en anglais, là. Leadership inclusif. Je me suis donné la peine de suivre ce certificat-là pour être sûr d'offrir un contenu solide, un contenu approprié. On est constamment en train de faire des recherches, surtout qu'on ne veut pas réinventer la roue. Tu sais, imagine si on écrit un livre sur un tel thème, puis que ça correspond exactement à ce qui est sorti l'année d'avant. Il faut être au courant de ce qui se passe dans le marché. Il faut être au courant de... Tu sais, si vous écrivez aujourd'hui 60 nuances de gris, sans savoir qu'il y a eu 50 nuances de gris, ben ça ne marchera pas. Ça a l'air d'un pastiche. Puis un pastiche, ça arrive toujours dernier au niveau des ventes.
Puis là, on va aborder un thème qui va faire réagir certaines personnes qui nous écoutent. parce qu'il y en a une que je sais que ça va faire réagir. Le plan. Est-ce qu'il faut écrire un plan? Moi, je suis un prophète du plan. Je n'écris jamais un livre sans un plan. Il y en a d'autres qui détestent avoir un plan littéraire, de suivre une méthode. Toi, par exemple, est-ce que tu es Monsieur Plan, tu suis ton plan à la lettre, ou tu te laisses parfois déborder un peu de dire non, ce chapitre-là, il sert à rien, je vais le remplacer par un autre?
Alors, voici mon processus. Je me dis, OK, combien il y aura de mots dans mon livre? Parce qu'il faut faire attention, hein? Souvent, un auteur, ça vend sur son site web, sur son... Là, ça va être pécunier, là, mais quand tu vends sur ton site web, c'est un livre de 400 pages, puis qu'un client te l'achète. Il va te coûter au moins 12 $ à poster. Si tu as un livre de 160 pages, il va te coûter à peu près 5 $ 10. Ça fait une grosse différence. Puis, pour le client qui est sur ton site web et qui veut acheter le livre, quand il voit 12 $ de frais de port, il va peut-être oublier de commander. Alors, normalement, moi, je me dis, OK, la clientèle que je vise, quel prix elle veut payer? Incluant les frais de port. OK, tant, ça me prend, mettons, 32 000 mots. 32 000 mots, là, je vais dire OK. Et là, j'utilise un logiciel qui s'appelle MindNode.
Oui, j'allais y venir justement.
Et oui, qui me permet de, en nuage, là, de faire mon plan complet, d'ajouter des traits, d'ajouter tout ce qui va avec chaque chapitre. Ensuite, je divise le livre en, si c'est 30 000 mots, 28 000 mots, mettons qu'il reste après intro puis conclu, ben, je le divise dans le nombre de chapitres et je me dis, OK, chaque chapitre va avoir un nombre égal de mots, toc. Et je commence le plan de chaque chapitre. Et une fois que tout ça se terminé, ben, je me sens à l'aise d'écrire le livre parce que dans le fond, il existe déjà. Dans ma tête, le livre, il existe déjà. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est comme du coloriage.
Oui.
Je remplis chaque case. C'est tout
Oui,
ce que...
puis pour expliquer, MyNote, c'est vous avez un nœud au milieu qui est, par exemple, on va prendre un chapitre ou le titre du roman, et
Ah.
après vous pouvez explorer, vous pouvez mettre des branches un peu, de dire pour tel chapitre, on va écrire ça, tel autre chapitre, puis on fait des branches, puis cette branche-là permet encore d'exploser la branche en plusieurs morceaux. C'est un logiciel qui fonctionne sur Mac, que je connais, puis il fonctionne super bien pour faire un plan littéraire, entre autres, et tout ça.
Exactement. Puis une fois que tu as un beau mind note de fait, ben tout ce qui reste à faire, c'est écrire. Et c'est là que la partie facile commence. Parce que le travail est effectué. Mentalement, là, il n'y a plus de recherche à faire. Mentalement, le lecteur cible a été choisi. Tout ce qui reste à terminer, c'est remplir les cases. C'est de l'écriture. Puis si on fait 500 mots par jour, en 2 mois, notre livre est écrit.
Oui, puis tu dis dans le roman qui est dans le livre Devenez auteur qui est disponible sur bilivoediteur.com, l'importance de se récompenser.
Oh, absolument.
Parce que tu dis, on se fixe un objectif, genre on écrit 2000 mots, puis si on réussit au bout de la journée, ben on se permet de se récompenser. On va aller chercher ce qu'on aime, puis on se récompense.
Ben, en fait, moi, souvent, je me commande un roman qui me tente, là, et je le dépose aux côtés de ma table de travail, et je me dis, tu vas avoir le droit de le lire, prendre 3 4 jours de congé pour ce faire quand tu auras terminé ton livre. Ensuite, au fil des jours, moi, j'ai la chance d'avoir une fiancée qui contribue, et tous les jours, elle me dit, combien de mots, Alain, aujourd'hui? Combien de mots? Je dis mon nombre de mots. Elle vient dire bravo. Alors, c'est un engrenage qui fait en sorte qu'on a à cœur de continuer, qu'on a à cœur, on se dit OK. Et c'est comme monter, gravir une montagne. Tu sais, si tu as 30 000 mots à écrire, dans la première moitié, tu dis OK, je suis rendu à temps, je suis rendu à 10 000, je suis rendu à 11 000, je suis rendu à 15 000. Mais une fois qu'on est passé le sommet, là, il m'en reste 13 000, il m'en reste 11 000, il m'en reste 10 000. Ça devient tellement facile et motivant. Donc, c'est le simple fait de suivre notre progression, ça devient une récompense en soi également.
Pour toi, écrire un roman, est-ce que ce serait un défi ou ce serait un style qui pourrait te déstabiliser?
J'avoue que j'ai gagné des concours il y a plusieurs années de nouvelles fantastiques.
Oui.
Alors, c'est un mode avec lequel je me sentais bien, mais c'était pas un mode pour me mettre en marché. Sauf que ça m'arrive d'y penser.
Donc, à un moment donné, il pourra avoir
Possiblement un roman, oui.
d'ailleurs, tu écris ta biographie?
J'ai écrit ma biographie il y a quelques années. Elle n'est pas romancée, mais elle est présentée d'un contenu pas romancé. Mais c'est une belle histoire. C'est une très, très belle histoire. Ça s'appelle d'ailleurs Mon histoire, comment je suis devenu conférencier, où j'explique à quel point ce qu'on a vécu dans le passé va avoir un impact énorme sur ce qu'on devient et ce qu'on va faire dans la vie. En fait, c'est action-réaction. Et c'est pas un livre qu'on peut écrire étant jeune parce qu'on n'a pas encore réalisé ce qu'on est, qui on est, puis ce qu'on est devenu et pourquoi. C'est un livre qu'on écrit un petit peu plus tard, mais c'est tellement agréable d'écrire ça et de faire le point sur sa vie, puis de la raconter. C'est un livre que j'ai donné à mes enfants. C'est un livre qui a eu un bon succès littéraire, là. J'en ai vendu plusieurs. Puis, raconter une histoire, tu le fais également, tu sais, Jean-Luc.
Oui.
Raconter une histoire, c'est agréable. Ça nous ramène pratiquement aux aspects tribaux de l'humanité. Quand on se tenait ensemble le soir autour du feu et que l'aîné nous racontait des choses qui faisait en sorte qu'on se sentait lié aux autres et qu'on avait envie de connaître la suite. Ça a été la même chose. Si on se rappelle, les mille et une nuits, c'était ça également. Scheherazade racontait une histoire chaque jour, comme ça, elle gardait sa vie, elle conservait sa vie et elle pouvait continuer à vivre. On a besoin d'histoire. En fait, l'être humain, au fil du temps, si on a pu survivre, c'est à cause des fables, c'est à cause des histoires. Le soir, on se réunissait autour du feu, on écoutait l'aïeul. L'aïeul nous disait, par exemple, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune guerrier qui, un matin, décide d'aller chasser tout seul. Eh bien, les lions l'ont mangé. Il y avait une leçon. Il y avait une leçon qui était, OK, la chasse, ça se fait à plusieurs. On ne va pas chasser tout seul. Et le simple fait d'entendre, même chose pour la mythologie grecque, c'est quoi? C'était essayer de comprendre le monde tel qu'il est, essayer de comprendre. Quand j'ai écrit le livre sur les muses, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'on va être créatif plutôt que d'être recroquevillé sur soi-même? Alors, on est constamment en train de raconter des histoires. Même dans mes livres, sérieux, je raconte des histoires.
Oui.
Je fais des références à des fables de La Fontaine. Par exemple, au niveau de la résilience, je vais parler de la fable du chêne et du roseau. Tout simplement parce que si on ne plie pas, on casse. Alors, oui, il y a des styles littéraires, sauf que ton lecteur, il ne veut pas une dissertation. Il veut que tu l'amènes dans ton monde. Il veut se sentir bien. Et il veut qu'en quittant ton monde, en fermant le livre, il ait dit, OK, j'ai avancé, j'ai réfléchi, je me sens bien.
Exactement. Puis moi, je voudrais avoir ton avis parce que tu l'abordes. Puis je voudrais qu'on en discute. Est-ce que on devrait être publié chez un éditeur ou auto-édité?
Ça dépend.
Ça dépend, hein?
Ça dépend. En fait, si ce qu'on veut, c'est être en librairie, c'est chez un éditeur. D'un autre côté, si ce qu'on veut, c'est un livre qu'on va envoyer à des clients potentiels pour obtenir des mandats, ça peut être plus intéressant d'auto-éditer. Oups, je suis là. OK. Ça peut être plus intéressant de s'auto-éditer parce que notre coût unitaire va être plus bas et on va pouvoir offrir les livres. Et si on réalise que dans certains segments de marché, moi, par exemple, j'écris dans certains segments, là, j'ai écrit le leadership post-pandémie. T'sais, comment gérer les gens en télétravail? Bon, sans librairie, là, c'est loin d'être un best-seller potentiel. Mais quand je donne une conférence, ben, il y a un participant sur cinq qui vient m'en acheter une copie. T'sais, à ce moment-là, tu es beaucoup mieux de t'auto-éditer. Mais s'auto-éditer, il y a des caveats. Caveats? Caveats? En tout cas, il y a des avertissements là-dedans. Là. Ce n'est pas parce que tu t'édites toi-même qu'il faut que tu tournes les coins ronds et que tu oublies de te faire corriger, que tu oublies une belle mise en page, que tu oublies une belle couverture. Tu sais, on ne peut pas botcher un livre. C'est autant de travail, l'auto-édition. En fait, c'est plus de travail, l'auto-édition, que se faire éditer. Sauf que quelquefois, ton livre, je parlais tantôt de la dame, grand-mère, qui veut léguer à ses enfants son histoire, bien, elle, peut-être que son tirage va être de 20 copies, là. Il ne faut pas qu'elle aille cogner aux portes d'un éditeur. L'éditeur veut savoir c'est qui ta clientèle potentielle. T'as, très important, il y a combien de gens qui te suivent sur LinkedIn, il y a combien de gens qui te suivent sur Facebook, il y a combien de gens qui, il y a combien de gens qui seraient intéressés à l'acheter avant même qu'il soit en librairie. Bref, tu as un plan de marketing à monter pour un éditeur.
Ouais.
Mais un bon éditeur peut faire une différence, surtout pour quelqu'un qui se lance dans le secteur, qui n'a pas encore développé un marché. À ce moment-là, un bon éditeur va faire en sorte que, à cause des relations de presse, à cause de tout ça, tu vas être invité pour des entrevues et que tu vas te faire une renommée. À ce moment-là, ton livre d'ensuite va être encore mieux. Et l'éditeur a d'autres avantages aussi. Prenons mon livre « La vie est trop courte ».« La vie est trop courte », c'est un livre que j'ai écrit. Ah, il faudrait parler tantôt de comment naissent les idées de livres. Mais « La vie est trop courte », Mathieu Béliveau est allé se promener ou envoyer quelqu'un à la foire de Francfort et il y a quelqu'un en Tchécoslovaquie, République tchèque, qui a acheté les droits. Ben ça, en tant qu'auto-éditeur, tu ne l'as pas, ça.
Non.
Ben là, puis il y a quelques années, j'avais un autre éditeur. Lui, il a vendu les droits sur 10 de mes livres en Russie. T'sais, donc, Sexe et Flirt au bureau est devenu Sexe and Flirt Naraba, tu sais. C'est moins chic, là, c'est moins sexy. Mais en tout cas, est-ce que je sais si ça s'est vendu? Ça, je ne sais pas. Jamais eu un seul rapport de droit d'auteur. En tout cas, c'est la Russie. Alors, grosso modo, c'est vrai.
C'est la Russie.
C'est ça. Et je vais t'envoyer un avocat là? Non. De toute façon, c'est beau sur un CV.
Oui, c'est...
En russe. C'est aussi simple que ça. Mais... On était parti où, là?
Oui, on disait qu'on se connaisse les idées aussi, quand tu voulais parler.
OK, bon. Parlons de mon livre, justement, que Mathieu a vendu en République tchèque, qui s'appelle « La vie est trop courte ». C'est un livre qui date de peut-être 8 ans, là. Mais j'étais au Salon du livre de Québec. C'est bien le fun, les salons du livre. Et je signais, je ne me souviens plus quel livre, je pense que c'était « Manger mieux, bander mieux ». Alors, je signais ça. Quand je vois approcher de ma table de signature un de mes premiers clients, franchement, il travaillait pour le ministère de l'Industrie et du Commerce, et c'est un des premiers qui m'a fait confiance, qui m'a donné des mandats, etc. Alors, il s'approche. Dans le livre, je l'ai appelé Louis-Philippe. Et il me dit, « Alain, comment ça va? » Ça va bien? Qu'est-ce que tu as écrit cette année? » C'est sûr, 130 livres en 30 ans, tu en écris une couple par année. Fait que j'ai écrit ça. Je dis, « Ah, c'est le fun! » Mais cette année, contrairement aux autres années, je t'en achète pas. Je dis, « Pourquoi? » Il dit, « Ils m'ont trouvé une maladie dégénérative. J'ai déjà trouvé une maison qui va m'accueillir. Et dans 6 mois, je ne saurais même pas quitter. Je suis en train de tout perdre. » Puis il n'était pas vieux. Fait que cette journée-là, je pars de Québec. Je retourne chez moi. À l'époque, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça donne du temps pour réfléchir. Puis je me dis, ouais, la vie est courte. Tu ne sais jamais quand tu vas tomber. Et quand je suis arrivé à la maison, je savais déjà que mon prochain livre s'intitulerait « La vie est trop courte ».
Ouais.
Puis j'avais même trouvé la chanson que je mettrais en exergue. C'est c'était « Jour de Saint, on s'en va ». Alors, il me restait juste à faire un plan, puis c'était réglé. Mais c'est une étincelle qui fait que tu penses à ton livre. Quelquefois aussi, c'est des commandes. En pleine pandémie, Mathieu Béliveau m'appelle, puis il dit « Hey, pourrais-tu m'écrire un livre rapidement sur rebondir après une pandémie? » Puis, ben, j'avais écrit il y a quelques années un livre sur la résilience. Je me dis, OK, je peux l'adapter. Puis de faire de quoi? Bon, ben ça, c'est un livre qui a pris 3 semaines. Parce que c'était tout du matériel que je possédais, que j'ai transformé. Ouais. Alors, la naissance d'un livre est très, très spéciale. J'ai vécu une rupture il y a quelques années, ben 8 ans, je pense. Non. Oui, 8 ans. Je suis parti à Cuba, puis j'ai écrit « L'amour ne dure qu'un instant ». C'est le même. On peut pas, ben dans mon cas, on peut pas écrire des choses qui constituent pas nos préoccupations du moment. Et on peut pas non plus écrire 3 ans plus tard, ce qu'on aurait aimé écrire il y a 3 ans. Quand ça nous brûle pas les lèvres, on va dire le clavier, quand ça nous brûle le clavier, c'est le temps d'écrire et c'est le temps de soumettre.
Et tu expliques aussi dans « Devenir auteur » ton livre, l'apport à la commercialisation, ça veut dire que ce n'est pas non plus l'éditeur qui doit tout réaliser, mais c'est aussi l'auteur qui doit faire les démarches, par exemple auprès des médias, pour faire connaître son livre, et qu'il ne faut pas tout le temps remettre la faute sur l'éditeur qui n'a pas fait son travail, mais c'est aussi que l'auteur doit aussi s'impliquer dans la vente de son livre, dans la commercialisation de son livre.
Absolument. En fait, l'auteur même doit générer des mots-clés qui vont aider l'éditeur à bien le positionner dans les outils de recherche, engins de recherche, en tout cas, peu importe. Et il doit s'impliquer, il doit fournir, par exemple, qui sont sa liste de clients potentiels qui pourraient être intéressés par tel ou tel livre, fournir ça à l'éditeur pour que l'éditeur fasse des envois d'office. Tu sais, je jasais avec tel client aimerait peut-être le consulter, puis s'il consulte, il va peut-être l'acheter pour tous ses employés. Voici la source. On, On devient un partenaire marketing avec notre éditeur. Notre éditeur ne peut pas tout savoir. Il n'est pas dans notre tête. Il ne connaît pas notre réseau. Et même si on a eu un lunch avec l'éditeur, ça ne veut pas dire qu'il est au courant de notre auditoire potentiel pour tel ou tel titre. Puis on ne voudrait surtout pas qu'il passe à côté, qu'il y ait une couverture moche qui ne dira rien à notre véritable auditoire cible. On veut frapper dans le mille. Mais frapper dans le mille, ça l'implique de travailler ensemble. Ensuite, si l'éditeur fait des relations de presse et qu'il dit « j'aurai une entrevue pour toi tel jour à telle heure », tu ne dis pas « non, ça ne m'adonne pas ». Tu es au téléphone cette journée-là, tu attends l'intervieweur, tu réponds. Si ton éditeur te dit « hey, j'aurais peut-être quelque chose pour toi sur Radio-Canada la semaine prochaine », tu dis pas « ça ne m'adonne pas ». Tu bouges tes rendez-vous et tu te présentes sur place parce que ton livre vivra peut-être pas 10 ans. Là. C'est quand tu sens que c'est temps de profiter de cette sortie pour aller chercher le maximum d'auditoires potentiels pour atteindre tes objectifs et faire en sorte que, au bout du compte, ton éditeur te dise « wow, ça a été hot, est-ce que tu veux m'en écrire un autre? » Et à ce moment-là, tu es un auteur.
Oui, puis Nathalie Godin, que je salue. Salut Nathalie, qui est auteur chez autrice chez Béliveau Éditeur, qu'on a reçu dans un précédent Béliveau Rencontre et qui a eu beaucoup de succès en haut aussi. Demande, quels sont tes trucs à ce sujet, Alain, concernant la commercialisation? Est-ce que tu as 2-3 trucs à donner rapidement?
Ben oui, moi, en fait, j'ai ma propre liste de clients potentiels qui reçoivent, la couverture de mon livre.
La page couverture, oui.
La page couverture en disant « ça s'en vient, voici en quoi ça pourrait vous intéresser ». Fait qu'automatiquement, il y a des précommandes. Ensuite, avant la pandémie, j'allais souvent voir ma librairie en disant « je pourrais vous faire une séance d'écriture ». Quelquefois, les libraires n'osent pas le demander, mais une séance d'écriture, ils ont des gens qui les suivent sur Facebook, il y a des gens qui les suivent sur d'autres médias. Et si tu offres une séance de signature, ils vont dire « oui ». Quelle date? Tu bookes ça, puis c'est réglé. Puis ensuite, il y a d'aller voir tout ce qui se passe dans ta municipalité. Par exemple, moi, là, je suis à Drummondville. Bien, la MRC Drummondville a des instances au niveau des activités culturelles. Et si tu soumets à ces instances-là des synopsis de formation ou d'intervention, comme par exemple, moi, cette année, bientôt, je fais les 10 clés de la résilience. Ben, c'est ma MRC qui m'a trouvé une association de parents d'enfants handicapés, puis je vais aller donner une conférence sur la résilience. Mais ça, c'est pas le job de l'éditeur de trouver ça. C'est à toi, en tant qu'auteur, de le trouver, puis de dire, hey, je pourrais aider une partie de votre gang. Puis, un petit peu plus tard, à l'automne, c'est loin ça, mais en tout cas, à l'automne, je donne « Devenez auteur » à un autre groupe d'un centre communautaire. Autrement dit, chaque occasion de se mettre en valeur, c'est une occasion pour arriver avec une petite boîte de livres. Puis, en partant à la fin de la soirée, ta boîte est vide.
Puis, tu vas être fin mai en conférence aussi?
Pardon?
À la fin mai, tu vas être en conférence?
Oh, hey, j'en donne beaucoup de conférences, mais à la fin mai, effectivement, je donne une conférence à la psychologie positive à 2 groupes dans la même journée à Québec. Et c'est la conférence s'intitule « Sois positif, Bedon reste chez vous ». Puis ça devrait être super intéressant. Et justement, j'arrive avec une boîte de livres, puis je m'attends à repartir avec une boîte vide. C'est, en fait, c'est tellement tentant pour un nouvel auteur de se dire, une fois qu'un éditeur a pris mon livre, mon texte, ma job est faite. Non, notre job commence. Parce que faire en sorte que notre livre survive, l'éditeur, lui, au bout d'un an au Québec, hein, les libraires retournent les invendus. Fait que ton
Oui.
livre cesse d'exister. Il n'est plus dans les catalogues, puis etc. Alors, on a besoin également de travailler pour maintenir la ferveur, pour que les gens arrivent en librairie et demandent notre titre, parce qu'à ce moment-là, il va être plus souvent en tablette. De plus, il y a d'autres outils qui existent pour les auteurs. Moi, par exemple, présentement, j'ai terminé un livre audio. C'est important parce que beaucoup de Québécois quittent tranquillement le livre papier pour écouter ça en audio parce qu'ils sont dans les transports en commun le matin, transports en commun le soir, etc. Ce qui fait que le livre audio constitue pour moi une belle avenue actuellement qui génère beaucoup de ventes. Et c'est pas parce que ton livre est publié papier que tu peux pas jaser avec ton éditeur puis dire, hey, j'aimerais faire un audio parce que les audiolivres se vendent.
Oui, et ils se vendent de plus en plus. Et je parlais aussi de ton site internet sur lequel on retrouve des ateliers, par exemple, on retrouve plein d'informations. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots, s'il te plaît?
Ben oui, mon site internet, c'est www.alainsanson.com ou alainsanson.net, les deux fonctionnent. Et ce site-là, ben naturellement, il a été revampé au fil du temps, mais c'est à peu près 30 ans de travail. Au fil des années, j'ai rajouté des conférences, des conférences, des conférences. Puis aujourd'hui, c'est l'essentiel de ce que je peux offrir. Et ce que j'offre surtout sur ce site-là, ben, c'est des formations et des conférences basées sur mes livres parce que je suis incapable de monter une conférence si je n'ai pas écrit un livre avant, parce que le livre nous permet de structurer notre pensée, de définir ce qui est important et ce qui est accessoire, et de livrer un produit qui se tient. Puis un produit qui va faire que nos auditoires vont dire waouh, on a eu un bon conférencier cette année. Fait que mon site web, alainsanson.com, sert à mettre en valeur mon contenu. Il donne des liens pour pouvoir naturellement acheter les livres. Il donne des liens pour acheter les livres audio. Mais ma source principale de revenus, ben, c'est les conférences, puis c'est les formations. Et l'emphase est surtout mise sur celle-ci.
Puis, on arrive déjà à la fin, on aurait pris encore le double, mais on arrive avec le temps qui nous est imparti. Puis, écoute, mon cher Alain, je te laisse le mot de la fin. Je te laisse ce mot de la fin à toi.
Alors, je vous dirais, hey, tiens, je vais parler d'un titre qui est chez Béliveau pour le mot de la fin. J'ai combien de temps, là?
Oh, écoute, tu prends le temps que tu veux.
D'accord. Il y a un best-seller mondial qui s'appelle Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout. Puis il y a quelques années, je lis dans un magazine que ça va bientôt être le 25e anniversaire de ce livre-là. Alors, tout de suite, j'ai une étincelle. Je me dis, waouh! 25 ans, un best-seller pour comment réussir. Mais ceux qui veulent rater leur vie, ceux qui s'auto-sabotent, personne n'a écrit de livre pour eux autres. Et à ce moment-là, j'ai proposé à Mathieu Béliveau les 7 habitudes des gens qui ratent tout. Il a dit oui. Dans le temps de dire, en fait, ça m'a pris 2 mois de l'écrire. Au bout de 2 mois, je lui envoie. Ce que je dirais, c'est que attendez pas 20 ans que le livre soit formé dans votre tête. Partez sur l'inspiration du moment. Quelquefois, vous allez écrire des choses qui sont pas vendables. Quelquefois, vous allez écrire des joyaux et en vous relisant, vous allez être surpris puis vous allez être fier. C'est ça qui est important. On utilise, ou plutôt on s'abreuve au robinet de notre imagination quand celle-ci nous offre du matériel. Attendons pas en disant, ça va falloir, je m'en rappelle plus tard. Non. Vous avez une idée, commencez à écrire. Ça, c'est comme aller au dépanneur parce qu'on a besoin de lait. On revient avec du pain, de la bière, etc. On a oublié le lait. Quand vous avez l'esprit à ça, vous écrivez. Puis prenez pas.
C'est très, très beau. Merci beaucoup, Alain, d'avoir pris le temps en ce mercredi de venir discuter avec nous. Il y a eu beaucoup de questions. On n'a pas pu toutes les passer, mais écoute, on aurait pris à peu près encore 1 heure de plus avec toi. Le prochain invité, ça va être Michel Picard. Et là, on va parler du langage des yeux. Donc, tout va se passer dans le regard. Et ça va avoir lieu le 12 avril prochain dès 20 h. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ah, il y a Mireille Bernier, une fidèle internaute qui nous écoute toutes les 2 semaines. Je salue aussi Lolita, Nathalie Godin, entre autres, qui a posé des questions. Donc, merci tout le monde. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Alain.
Okay.
Puis, on se retrouve le 12 avril à 20 h avec Michel Picard. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye.
Bye bye.